France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Frank Herbert, qui a écrit Les Dunes, bien sûr, et dont le premier livre, rappelons-le, sort en 1965, disait qu'il ne percevait son travail que comme un écho à l'actualité et une valeur universelle. Et aujourd'hui, presque 60 ans après, alors que sort le film Dune 2, donc nouvelle version signée Denis Villeneuve, l'écologie, le populisme, le mélange de politique et religion, tout cela nous parle terriblement. La science-fiction nous donne à voir depuis des décennies une vision du monde dystopique qui, si souvent, a été rattrapé par le réel. Alors évidemment, dans les grands marqueurs de base, on adore détruire la planète quasi intégralement, les grandes catastrophes nucléaires sont bien là, mais très souvent et très tôt, les hommes ont épuisé également les ressources, la planète est réduite à un petit monde presque invivable, et c'est souvent la rébellion de la rébellion que viendra l'émancipation, comme s'il fallait attendre le chaos pour avoir la force de réagir, et la dystopie devient politique. En cherchant quelques dates pour préparer cette émission, j'ai découvert avec un peu d'effroi que Soleil Vert est inspiré d'un livre de 1966, devenu un film en 1973, mais surtout que l'intrigue est placée, le savez-vous, en 2022. N'oubliez pas que Mad Max cherche du carburant, peut-être que ça nous rappelle quelque chose. L'autre grand marqueur, ce sont les robots, et là aussi, peut-être que ça commence à nous parler très sévèrement, qui prennent le pouvoir d'Asimov jusqu'à Terminator, et une intelligence artificielle qui nous submerge ou nous pilote. Alors, est-ce que les auteurs de science-fiction sont des visionnaires? Est-ce que la vision des auteurs inspire le réel? Il paraît, figurez-vous, que les petits clapets de communication de Star Trek ont donné des idées aux inventeurs des téléphones portables. Et aujourd'hui, est-ce que le réel va plus vite que les auteurs? Est-ce que la science-fiction nous apprend des choses qui nous aideront peut-être à le corriger? Êtes-vous, amis auteurs de science-fiction, il y en a autour de cette table, un peu les lanceurs d'alerte de notre futur? C'est le téléphone sonne ce soir. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Soyez la
bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Écoutez, dans les fins des années 80, j'ai vu un film m'a tout de suite parlé au niveau écologique, puisqu'à l'époque, on n'avait pas du tout ce type de problème. Mais je voyais bien que, en effet, la destruction progressive de la planète, parce que c'est progressif, allait sûrement aboutir à ce résultat-là. Et à cette époque, tout le monde se moquait de moi. Et en fait, tout le monde me disait, c'est absurde, et il s'agissait du film Vert. Mmh. Malheureusement, il est basé sur la logique du rapport Meadows qui en effet prévoyait en 1972 que si on continuait à détruire la planète de la même façon, dans 50 ans, on serait très impacté. 2022, c'est exactement le film. C'était vraiment impressionnant. Et je voulais dire que réellement, tous ces auteurs qui raisonnent, ont des raisonnements, ils nous amènent finalement à réfléchir et normalement, on devrait pouvoir anticiper pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et si on remonte encore plus loin, il y a Jules Verne aussi qui nous a fait Les Sous-marins, dont la science-fiction malheureusement ou heureusement pour certains cas, ça peut être notre réalité.
Eh bien écoutez, on va le voir ensemble et ce sera une jolie introduction. Merci Marie pour votre question, pour discuter ensemble autour de la table. Il y a Catherine Dufour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivaine de science-fiction, vous êtes aussi accessoirement, j'allais dire, ingénieure informatique. Il y a Ariel Kirou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, vous êtes philosophe, vous avez écrit dans Les Imaginaires du Futur chez ActuSF, c'était en 2020. Et il y a Lloyd Cherry également, vous êtes là?
Bonsoir.
Super, rédacteur en chef adjoint de Métal Hurlant. Vous êtes en duplex à Los Angeles parce que vous avez eu la chance de voir Dune dans des conditions super. De voir ou vous êtes sur le point de le voir?
Non, de voir. Je l'ai déjà vu.
Ah,
c'était
vous
génial.
Voilà, vous allez pouvoir nous raconter. Je vais commencer avec vous, Catherine Dufour, parce qu'après tout, l'écrivaine de science-fiction autour de cette table, c'est vous. Notre auditrice Marie nous dit au fond que si on écoutait un peu plus les auteurs de science-fiction, peut-être qu'on verrait une vision de notre futur. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous ?
Oui, tout à fait. La science-fiction, elle met en scène nos angoisses face au futur et la façon dont on va les affronter collectivement. Donc, en général, elle met en scène effectivement des catastrophes, mais logiquement, elle trace aussi des pistes d'espoir. espoir. L'humanité étant quand même quelque chose de débrouillard. Bon, sauf dans quelques grands classiques comme 1984, où franchement, la lueur d'espoir à la fin est pas évidente.
Certes.
Et moi, en tant que membre du jury du GPU, le Grand Prix de l'Imaginaire, donc j'ai lu la totalité de la production de science-fiction de l'année passée. Et en ce moment, il y a deux thèmes qui nous tournent dans la tête collectivement. C'est la condition féminine dans ce qu'elle a d'écrasant et l'angoisse climatique, hein, ce qu'on appelle la cliffy, la climatique fiction. Et alors, si vous voulez à la fois vous inquiéter, vous rassurer, je vous conseille vraiment de lire, enfin, il y a vraiment en ce moment ce qu'il faut lire, parce que ça expose vraiment un avenir assez proche au niveau climatique. Et en même temps, ça propose des pistes et de l'espoir. Il y a le ministère du futur de Kim Stanley Robinson et il y a Choc Terminal de Neal Stephenson.
Bah écoutez, c'est bien de nous donner un peu de prescription. Ariel Kirou, est-ce que, je disais tout à l'heure un peu en plaisantant, mais néanmoins, que les auteurs étaient un peu des lanceurs d'alerte, en fait, parce qu'ils ont quoi ? Est-ce qu'ils sont un peu visionnaires ? Est-ce que l'idée, c'est de partir du réel, d'imaginer un plus et d'être rattrapé par ce réel-là ? Ça marche comment dans le cerveau des auteurs de fiction, de science-fiction ?
Les auteurs de science-fiction, d'abord, ils ont un principe, c'est le fameux « et si ».
Ouais. Hein,
c'est-à-dire que ils créent des mondes et ils changent les hypothèses à la base de ces mondes. Bon. Donc, les normes différentes, des règles différentes. Donc, ils se projettent quelque part. Et ils se projettent non pas au travers de chiffres, non pas au travers de sciences dures, même s'ils les utilisent parfois, mais au travers de l'humain. Donc, dès lors qu'on met l'humain, qu'on le projette dans un autre monde, qui est un monde futur potentiellement, mais qui peut être un monde passé, qui peut être un monde parallèle, eh bien, on est contraint, si on veut bien faire son job, on est contraint d'envisager toutes les hypothèses,
mais
dont les plus imprévisibles.
Mais on peut tomber à côté, Ariel Kirou, et ce qui est vachement intéressant, y compris ce qu'on vient de lister, c'est qu'il tombe quand même rarement à côté.
Bah, de fait, il tombe souvent à côté, oui. Mais ce qu'on retient, c'est
ceux qui sont tombés pile.
Et c'est pas forcément tomber pile, c'est ceux qui, par leur art, leur philosophie, au fond, touchent quelque chose qui va rester juste très longtemps. Voilà, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus c'est beaucoup plus métaphysique. C'est un peu comme des fables, si vous voulez. Hein. Soleil vert, c'est une fable. Dune, c'est une fable. En fait, c'est-à-dire que ça nous raconte une histoire et ce qu'elle raconte n'arrivera jamais en tant que tel. Mais les différents éléments, la connexion entre les personnages, le monde qui est ainsi décrit, est un monde qui fait écho en nous. Voilà. Donc, ce n'est pas une prévision juste. C'est quelque chose qui nous touche. Parce que ça a été bien fait, bien construit, bien monté, avec des hypothèses qui nous parlent.
Et on va aller à Dune 2 dans un instant avec Lloyd Thierry, mais je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Ariel Kirou ou Catherine Dufour. Moi, j'ai lu, en vous lisant, en fait, dans une interview qu'il y avait quelques années, vous disiez que, en gros, dans un de vos livres qui s'appelait Mémoire morte, vous inventez une espèce de métaverse, en fait, on va le dire un peu rapidement, mais en gros, vous inventez une espèce de métaverse, et vous dites là-dessus, j'ai 15 ans d'avance. Et aujourd'hui, plus ça va, moins on a de l'avance. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, selon vous ?
Oui, avant, j'avais 15 ans d'avance, et puis j'ai eu 5 ans d'avance, et puis 2 ans, et puis maintenant, dès que j'ai une idée merveilleuse, je la tape sur Google, et elle a déjà été inventée à 3 mois. Donc je me suis dit, ok, j'ai passé 50 ans, je suis has-been, place aux jeunes, et j'ai demandé à des jeunes, je sais pas, Léo Henry, enfin des gens qui ont 10, 15-20 ans de moins que moi, Sabrina Calvo, et Léo Henry m'a dit, ah oui, toi aussi, tu réalises que la science-fiction est en train de se prendre le mur du réel dans la face ? Et effectivement, notre science avance plus vite que notre imaginaire n'est capable d'avancer, ce qui est embêtant, parce qu'on a la littérature pour digérer nos propres inventions, la scénariser, voir ce qu'elle peut donner, et du coup s'en méfier. Et là, ça commence à aller vraiment trop vite pour nous.
Ariel Kirou, je vous ai vu réagir.
Oui, parce que là, on parlait du métaverse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le métaverse, le terme métaverse, a été inventé en 1992 par un auteur de science-fiction, justement Neal Stephenson, qui a été cité, parce que c'est le choc terminal. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lui, lorsqu'il met en scène le métaverse, donc ce monde virtuel, il le met en scène, mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des choses qui se passent mal. Il faut qu'il y ait, des bugs, il faut qu'il y ait des gens qui potentiellement meurent.
Ouais.
Et au fond, il y a un côté positif dans le métavers de Neal Stephenson, il y a un côté magnifique de créer en permanence son propre univers virtuel, mais il y a aussi, parce qu'il projette, il y a aussi des pièges, il y a aussi des pièges, et on se rend compte que ça ne marchera que si réellement il y a la vie dans ce qu'elle a de meilleur et de pire, sinon ça ne marchera jamais. Donc ça veut dire que ce bouquin de 1992 devient une antidote contre Meta, contre Facebook, et contre ces cette logique marketing qui jamais ne met l'humain au cœur et toujours le marketing uniquement.
Mais en même temps, dans tous les bouquins de science-fiction, dans tous les films de science-fiction, dans toutes les séries de science-fiction, on sort bien que le positif, il vient du chaos. Il faut d'abord avoir tout détruit de toute façon pour que quelque chose émane de ce chaos-là. Et moi, j'ai l'impression que ce que nous raconte, y compris la génération suivante, celle des auteurs aussi peut-être, c'est que peut-être on peut imaginer quelque chose du plus positif avant que le chaos nous tombe sur la tête.
Oui, tout à fait. Il y a quand même une partie de la science-fiction qui est beaucoup plus positive. Moi, je vous invite là à découvrir, Becky Chambers, Prière pour les cimes timides, qui met en scène quand même des lendemains qui chantent bien davantage, et en général parce qu'on trouve une solution collectivement pour reverdir notre monde. Il y a quand même pas que des oiseaux de malheur en science-fiction.
Alors, reverdir, justement, c'est presque le mot. Lloyd Sherry, rédacteur en chef adjoint de Metal Hurlant, vous qui avez eu la chance de voir Dune 2 dans des conditions géniales à Los Angeles et qui connaissez ça par cœur. Moi, je voudrais savoir ce qu'il y a de plus dans l'œuvre de Frank Herbert qui fait qu'aujourd'hui, on peut refaire un Dune en 2024, que ça reste une référence et que ça nous parle autant, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans cette histoire-là par rapport à d'autres ?
Je crois que ce qui est intéressant avec Frank Herbert, c'est qu'il a surtout voulu alerter les lecteurs face aux personnalités charismatiques, face aux leaders charismatiques.
Le lanceur d'alerte dont je parlais en lancement, par exemple.
C'est ça. Il y a toute une thématique dans Dune qui est de ne pas suivre les leaders charismatiques. Il y a aussi toute une thématique sur le messianisme religieux.
Bien sûr.
Et on parle bien sûr d'écologie dans Dune, même si Frank Herbert le disait lui-même. Hein. Je ne suis pas un militant écologiste passionné. Par contre, il était extrêmement intéressé par l'écologie, par les problématiques écologiques, et ça sous-tend dans toute son œuvre, en tout cas dans l'œuvre de Dune, il y a une vraie question autour de l'écologie. Ouais.
Après, je me demande si on ne lit pas chacune de ses œuvres à l'aune de notre propre histoire et notre propre moment sur la planète, Lloyd Sherry, parce qu'après tout, le monde qu'il décrit et que décrit son héros notamment, c'est une espèce de héros presque antique qui devient une espèce de forme de tyran. On va tracer des lignes qui sont des grosses lignes, mais néanmoins, c'est un peu ça. Regardez, Jules César était ça aussi. Alexandre le Grand était ça aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a rien inventé. Donc je me demande en fait si on lit la science-fiction aujourd'hui avec nos yeux d'aujourd'hui ou si elle avait cette espèce de pure intemporalité.
En tout cas, ce qui est intéressant et ce que vous dites est vrai. Il y a quelque chose d'intemporel dans Dune, puisque Frank Herbert est très inspiré par la culture classique, et tout à fait Paul Atreides, un espèce de mash-up entre Laurence d'Arabie, entre Saint Paul, entre le prophète Mahomet. Mm-hmm. Il suit un peu le chemin du héros initiatique qui a été théorisé par Joseph Campbell, qui est la personne qui a théorisé autour des mythes. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intemporel en fait dans le parcours de Paul Atreides sur le premier roman qui est Dune. Après, ce qui est intéressant aussi avec Herbert, c'est que quand il est découvert par la jeune génération dans les campus américains, c'est plutôt des hippies qui aiment Dune. C'est les mêmes hippies qui aiment aussi Le Seigneur des Anneaux. Et donc, on va avoir des jeunes qui vont être très attirés par la philosophie bouddhiste, par la culture orientale, et aussi par cet univers où il n'y a plus de technologie. Dans Dune, il y a eu ce qu'on appelle le djihad butlerien. Il y a eu une guerre entre l'homme et la machine. L'homme a gagné. Et donc, il y a des espèces de super-humains dopés à l'épice. Et il y avait plein de thématiques qui, en effet, pouvaient plaire à des jeunes des années 60. Et c'est sûr que le terme djihad, qui n'est quasiment pas utilisé
exactement,
dans les deux films...
Exactement, c'est ça que j'allais vous dire, en fait. Mais alors, pour le coup, parce que notre réel, là, et quand on se dit que parfois on se tape au réel, c'est qu'il y a des mots qu'on ne veut plus, qu'on n'ose plus utiliser. Et le terme de djihad, ouais, c'est sûrement dans le top 3.
Oui, de toute façon, le mot djihad n'est pas utilisé dans les deux films. On utilise le terme croisade.
Ah ouais.
Et c'est aussi intéressant parce que, en fait, avant 2001, le mot djihad était assez peu connu, à part des lecteurs de Dune, par exemple. Maintenant, je pense que malheureusement, tout le monde connaît le sens du mot djihad. Et donc, évidemment, comme on est face à un blockbuster hollywoodien, la Warner fait aussi attention à pas trop titiller tout le monde.
Lloyd Sherry, vous restez bien sûr avec nous. Je voudrais qu'on accueille Wilfried. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Wilfried.
Oui, bonsoir. Merci pour la qualité de vos émissions. Et je voulais aussi saluer vos invités parce que je trouve leurs propos très intéressants et qui résonnent énormément dans ce que je vis avec la science-fiction. Je suis un lecteur depuis que j'ai 10-11 ans, j'en ai un peu plus de 50 maintenant. À tout âge, la science-fiction m'a apporté des réflexions qui ont été diverses suivant les périodes de ma vie et je relis régulièrement des auteurs comme Frank Herbert, Isaac Asimov, Arthur Clarke, Kim Stanley Robinson aussi, et j'en ai découvert des plus récents, Liu Cixin par exemple. Ces auteurs, il me semble qu'ils nous apportent effectivement une vision de l'humanité face à ses propres défis, on en a déjà un petit peu parlé, les guerres, le climat, la surpopulation, la religion. Je pense qu'elle nous permet surtout de, en plaçant l'humanité dans des contextes hors normes, de comprendre ce que pourraient collectivement ou individuellement réaliser les humains de manière très positive, mais aussi forcément négative également. Et je voulais surtout témoigner que moi qui étais très technophile au début, la science-fiction au fur et à mesure m'a permis d'être beaucoup plus réservé face à la technologie et de ce que on peut en faire, puisque toute technologie peut avoir son côté sombre, voilà.
Merci beaucoup Wilfried, merci d'avoir donné votre avis. J'ai vu quelques têtes qui approuvaient vos choix de lecture notamment, donc vous pourrez revenir quand vous voudrez Wilfried. Ariel Kirou, moi je trouve ça intéressant, les lectures de Wilfried, alors c'est pas le cas que dans la science-fiction, mais enfin là quand même réellement, ont aussi bougé un certain nombre des orientations de sa vie, notamment il parlait de son côté très techno.
Oui, bah, je crois que c'est la science. Kim Stanley Robinson, qui l'a cité, dit souvent que la science-fiction est vraiment la littérature de son époque. Mmh. La littérature d'une époque où on a besoin de prendre du recul, tout en prenant en compte, en quelque sorte, tout ce qui se passe à la fois au niveau technologique, au niveau social, au niveau politique, et le réchauffement climatique étant l'un des éléments clés. C'est pas pour rien que Kim Stanley Robinson, il s'attaque au réchauffement climatique, mmh, et il rend hommage à un prof à lui, qui était un prof marxiste, un penseur marxiste qui s'appelait Jameson, Frederick Jameson, et il prend acte de ce que dit Jameson. Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et ce qu'il fait, c'est que dans le ministère du futur, c'est qu'il prend un rebours et il imagine la fin du capitalisme. Une sorte d'euthanasie. Il fait un immense travail de recherche, immense, 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 et il se met dans la peau du photon, dans la peau de personnage, il imagine une canicule qui est totalement réaliste en Inde, mm-hmm, en 2025, et à partir de là, il relie tous les éléments du terrorisme en passant par ce machin, le ministère du futur, pour une hypothèse qui est de dire, est-ce que dans une quarantaine d'années, on pourrait sortir de l'ornière? Mmh. C'est très symptomatique du mode de fonctionnement de beaucoup d'écrivains de science-fiction.
Alors du coup, j'ai envie, est-ce qu'on va sortir de l'ornière, monsieur le professeur?
Il y aura des morts, il y aura des problèmes, bien évidemment. Et l'auteur de science-fiction, quelque part, il écoute son temps et il crée ses fables en exagérant un certain nombre d'éléments, positifs ou négatifs. Kim Stanley Robinson, il exagère l'importance du revenu universel, l'importance de on va dire, des coopérative de Mondragon, donc il imagine des systèmes alternatifs, une carbon coin, c'est quelque chose qu'il a pris dans le réel, ça existe la carbon coin, hein, c'est-à-dire une monnaie indexée sur, à une centaine d'années près, sur le rapport, tout simplement, sur l'empreinte carbone, sur le rapport à ce que ça fait ou non par rapport au réchauffement climatique. Donc il prend l'hypothèse et au fond, il l'expérimente, il la met sur scène et il invite les lecteurs et lectrices à venir sur cette scène avec lui, dans ce monde-là, et à l'explorer avec lui. Et ça, c'est ce que faisait Clark, c'est ce que fait Liu Cixin, tous les gens qu'a cité notre auditeur, c'est très exactement ce qu'ils font.
Lloyd Sherry, vous qui avez un regard là-dessus, après j'ai une question bien spécifique pour vous, Catherine Dufour, qui vient de nous arriver sur l'appli France Inter. Lloyd Sherry, est-ce que ça a évolué en fait? Est-ce que, pardon, mais la dystopie, les catastrophes, en fait, au fil de l'histoire de l'ASF, est-ce que d'abord on nous promet une catastrophe qui serait nucléaire, et puis peu à peu les catastrophes elles sont plus environnementales, et puis on voit arriver les virus, et puis on voit arriver l'intelligence artificielle, ou est-ce que au fond, les auteurs de SF ont mélangé tout ça bien avant et non pas cette espèce de chronologie que je viens d'énoncer.
Non, vous avez bien énoncé en fait, Fabienne. Il y a une chronologie évidemment quand on regarde l'histoire de l'ASF. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs histoires de l'ASF. Il y a l'histoire littéraire de l'ASF où on voit une évolution entre Jules Verne, Asimov, Herbert, Philip K. Dick, maintenant Liu Cixin. On voit qu'il y a une évolution évidemment des auteurs et des récits. En ce moment, et Catherine en a parlé, on est plutôt dans la tendance du hope punk, donc on essaye d'avoir de l'espoir à travers les récits. Mais en parallèle, on vit un véritable âge d'or de l'ASF au cinéma et en série télé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit depuis quelques années le retour de la dystopie, le retour du post-apo avec les zombies, et un espèce de cycle où des séries, on appelle d'autres et compagnie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, la science-fiction, elle est vraiment vécue via le prisme des médias, via le prisme de la télévision et du cinéma. Et c'est ça la différence, et c'est peut-être un peu pour ça qu'on a souvent l'impression de revoir les mêmes genres ou les mêmes sujets qui reviennent au fur et à mesure en boucle. En ce moment, on est plutôt dans une tendance où on va adapter des grands classiques. Donc, vous avez Dune au cinéma, Fondation sur Apple TV. Enfin bref, il y a une espèce de revival autour de ce qui a été fait avant et des classiques.
Catherine Dufour, il y a cette question sur l'appli France Inter qui dit « Pourquoi la science-fiction est-elle aussi snobée par les élites littéraires ?» On en parle très peu, notamment d'ailleurs sur France Inter. On embrasse Rebecca Manzoni qui va en mettre une science-fiction très très vite au masque et la plume. Et je voudrais... Catherine Dufour, en même temps que cette question, je rebondis sur ce que disait Lloyd Sherry qui dit « La science-fiction a le vent en poupe et toutes les dystopies ». Et au fond, moi j'ai l'impression qu'il y a plein de bouquins qui pourraient être mis dans la catégorie science-fiction, qu'on met dans la catégorie juste dystopie, mais au fond, est-ce que Margaret Atwood, c'est de la science-fiction, par exemple, pourquoi pas ? Est-ce que l'anomalie de Hervé Le Tellier, c'est de la science-fiction ? Enfin, est-ce qu'on a aussi élargi les bornes ou pas ?
Oui, alors en fait, il y a quand même qu'en France qu'il y a un certain snobisme vis-à-vis de la science-fiction. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas le cas dans le monde anglo-saxon. La plaisanterie, c'est de dire que un livre de science-fiction qui se vend bien et considéré comme de la littérature blanche. Tout Houellebecq, c'est de la science-fiction, il le dit lui-même, mais il dit lui-même qu'il ne le dit pas, parce que si quand on est catégorisé science-fiction, on se condamne, ouvrez les guillemets, à un silence critique définitif, fermez les guillemets, il disait ça pour rire, mais c'est assez vrai, tout Bernard Werber, c'est de la science-fiction, bien sûr qu'à l'anomalie de Le Tellier, c'est de la science-fiction. Donc je crois que ces différences sont en train de s'abolir, ces étiquettes sont en train de fondre d'elles-mêmes. Moi, j'ai regardé globalement un livre de littérature française qui paraît, un livre sur 10 a quelque chose à voir avec la science-fiction. Ça peut être une uchronie, ça peut être de l'anticipation. Il y a à peu près un film sur 5 qui est basé là-dessus. Il y a un peu une série sur 2, il faut le dire. Et en jeu vidéo, je crois que c'est un peu 1 sur 1. Franchement, à part le Cuphead Show, je vois pas de jeu vidéo qui ait pas au moins un cadre cyberpunk.
Voilà. À part Candy Crush, mais c'est vraiment une autre histoire. On est en train de parler de science-fiction qui se tape sur le mur du réel. C'est l'une de vos expressions tout à l'heure avec Catherine Dufour qui est écrivaine en science-fiction, avec Lloyd Sherry qui est rédacteur en chef adjoint de Metal Hurlant qui est avec nous depuis Los Angeles, et avec Ariel Quirou qui est écrivain et philosophe, et aussi avec Marc qui est à Toulouse. Bonsoir.
Bonsoir. On vous écoute. À tout le monde. Merci beaucoup pour vos émissions, toujours d'aussi grande qualité, pour tout ce qui est dit. Alors, avant ma question, si vous permettez, au sujet de Dune, beaucoup de choses ont été dites évidemment, mais peut-être pas encore, je ne crois pas l'avoir entendu, le fait que Frank Herbert évacue très rapidement l'intelligence artificielle, le djihad butlérien. Je trouve que c'est un sacré parti pris aussi pour son roman et cette saga que j'adore particulièrement.
Ben, on y viendra à l'IA aussi dans un instant, mais allez-y, Marc.
C'était donc, oui, est-ce que... La science-fiction est prédit l'avenir, on le dit, elle a vu plein de choses avant, mais est-ce qu'elle aurait carrément le pouvoir, pour vous inviter, de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'à force de penser un futur, on le fait advenir. Voilà.
Oh là là.
Ça, c'est une sacrée question.
Quelle question, Ariel Quirou, c'est pour vous, parce qu'il y a écrivain et aussi philosophe sur votre page LinkedIn. Allez-y.
C'est le type de question où on a envie de répondre à la fois oui et à la fois non. En fait, oui, parce que la fiction est performative. Parce que contrairement à ce qu'on imagine, elle nous change, elle nous transforme, même si ce n'est pas dit. Je ne sais pas combien des auditeurs a dans sa poche un smartphone Android. Je pense qu'ils ne savent pas que le créateur d'Android, celui qui a créé la start-up qui a été rachetée par Google, Andy Rubin, en janvier 2016, a souhaité bon anniversaire à Roy Batty. Et Roy Batty, c'est le réplicant, c'est Rutger Hauer, le réplicant de Blade Runner. Il lui a souhaité bon anniversaire, donc il a été prendre une image de à peine quelques secondes. Et il l'a envoyé sur ce qu'on appelait à l'époque Twitter, pour fêter l'activation de ce réplicant.
Ça veut dire que
Android... Le nom Android, il vient de son amour des androïdes, de son amour de Blade Runner. Ça, on le voit pas. Et c'est quelque chose qui fait pas bien en France, de le dire. Donc, oui, la fiction, elle transforme. La fiction, elle nous influence. Donc, il y a quelque chose de cet ordre performatif, mais elle n'influence jamais seule. Bien évidemment. Je veux dire, il y a ce qu'on vit au quotidien. Il y a tout le reste qui nous influence, toutes nos mémoires. Et elle joue avec cet ensemble d'éléments. Donc, croire que ça ne fait rien, c'est une erreur. croire que ça fait tout, c'est une erreur aussi. Voilà. Et aujourd'hui, en tout cas en France, on a plutôt tendance à considérer que ça ne fait rien, que c'est que du divertissement. Non. Ce n'est pas que du divertissement, c'est quelque chose qui nous transforme et qu'il faut donc prendre au sérieux, mais avec le sourire.
Et si c'est pas que du divertissement, Lloyd Sherry, ça veut dire aussi que la science-fiction est très politique, de plus en plus politique. Est-ce qu'elle l'a été, elle l'est moins, et puis elle la redevient? Encore une fois, on a cité des noms, mais on peut juger que Dune est un film extrêmement politique. En fait, si on a envie d'avoir cette lecture-là, on a cité Margaret Atwood tout à l'heure dans un tout autre genre, dans la dystopie qui est ultra politique, et c'est même encore plus intéressant, parce que c'est la politique qui s'en empare et qui fait rentrer dans le réel des personnages de cette fiction-là. C'était cas dans les manifs de Trump. Donc, Lloyd Sherry, c'est politique, dépolitisé, repolitisé. Ça marche comment, la SF, pour ça ?
La science-fiction, moi, je pense, a toujours été politique. On pense, très simple, hein. On va parler de George Orwell, par exemple, ou de Aldous Huxley, pour Le Meilleur des Mondes. Mm. 1984, Le Meilleur des Mondes, c'est politique, c'est la base, entre guillemets, de la dystopie. Et bien sûr, la science-fiction est politique, les auteurs de science-fiction sont plutôt politiques et ont envie de transmettre des messages. Après, sur la question de la prophétie autoréalisatrice, j'espère pas. Mais après, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on demande souvent aux auteurs de science-fiction d'avoir raison, entre guillemets. Mmh. Et ce qui est rigolo, c'est que qu'on remonte un peu le temps, ça fait depuis le procès de Flaubert à peu près qu'on demande à la littérature de ne plus être utile ou d'arrêter d'être utile. Et en fait, la science-fiction, c'est un peu le seul endroit littéraire où on demande aux auteurs qu'est-ce qu'ils ont imaginé, est-ce que leur prédiction était bonne ou pas. Et ça, c'est un paradoxe assez amusant. Isaac Asimov a parlé des robots, évidemment, mais on retient souvent ce qui a été inventé par les auteurs de SF et qui s'est révélé juste dans l'avenir. Mais il y a beaucoup, beaucoup aussi de bêtises qui sont racontées aussi par des auteurs de SF. Et des fois, heureusement même...
Heureusement, oui, comme vous dites. Après, j'ai trouvé dans l'actualité d'aujourd'hui que c'était assez marrant. Apple a renoncé à sa voiture super autonome et électrique. Et on a tous à peu près le même âge autour de cette table. Les images qu'on avait quand on était gamin de ce que devait être le futur. Il y avait des voitures qui volaient à peu près dans tous les sens, dans des villes très tubulaires, etc. Tout ça, il y avait une espèce d'imagerie, en fait, de notre futur à une époque.
Le rêve d'Icare.
Oui, absolument. Mais il y avait cette imagerie-là qui n'existe plus, ou pas, ou quasiment pas.
Pour rebondir. Je pense que ceux qui font la science-fiction en ce moment, c'est peut-être une question, c'est des gens qui viennent de la Silicon Valley, finalement. C'est Elon Musk et ses fantasmes d'aller sur Mars. Moi, je me pose vraiment la question en me disant, est-ce que c'est pas Jeff Bezos et Elon Musk qui font pas de la science-fiction à coût de milliards de dollars? Puisqu'ils essayent de projeter leurs fantasmes, puisque c'est tous des lecteurs de SF et des fans de science-fiction.
Mais de science-fiction hyper bas de gamme, très très archaïque. Et c'est comme s'il y avait une version Disney de la science-fiction qui effectivement
ça,
sortait
Elon Musk.
Aux années 80.
Voilà.
C'est ça le vrai
ce qui est assez drôle, c'est que dans toutes les nouvelles générations d'autrices, d'auteurs, des gens comme Lee Cam, comme Katie Stewart, il y en a beaucoup d'autres, comme Becky Chambers qu'on a cité, elles sont à l'antithèse de ça. En fait, mais vraiment à l'antithèse.
Oui, et puis moi je voulais défendre aussi la science-fiction. Elle permet aussi, elle est peut-être performative dans le mauvais sens, mais elle permet aussi de se méfier. Ça, Wilfried l'a très bien dit. Hein. Le Meilleur des Mondes d'Huxley sort en 1931 et il nous alerte sur les errances des biotechnologies. À l'époque, il n'y avait pas de biotechnologie, il n'y avait même pas d'antibiotiques. Et bien du coup, comme on a été des générations à lire et à se dire, ah oui, effectivement, le jour où on pourra tripoter des embryons, ça va être peut-être un peu embêtant. Du coup, avant même que ça soit possible technologiquement, on a voté des lois, par exemple, sur la non-brevetabilité du vivant. On s'est méfié de nos progrès à venir grâce à la science-fiction.
Vous croyez que c'est Huxley qui a provoqué ce genre de choses?
C'est Huxley qui a provoqué une réflexion collective, oui.
Bonsoir, Rich.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir de l'île de la Réunion.
Ah ben, super, on est content.
Voilà, je vous appelle, moi, de la nuit. Je suis technologiste et je voulais intervenir sur cette question de dystopie, d'utopie, etc. Et ça me paraît très important de signaler que la vision française aujourd'hui de la futurologie, c'est-à-dire de cette projection qu'on peut avoir dans l'avenir, elle est ce que les Américains appelleraient doomeriste, c'est-à-dire qu'on s'imagine un monde dystopique, c'est-à-dire que il y a une espèce de consensus. Et si on écoute quelqu'un qui est très, on va dire, pop philosophe aujourd'hui et très écouté, qui est Jean Covici, on voit un mur dans lequel on va se jeter, qui est le même mur que le mur, on va dire, des écologistes qui voient que, en fait, ben, tout va à volo et on va disparaître, etc. Mais cette vision dystopique qui vient en fait en réponse à un monde utopique qu'on a pu s'imaginer au cours du XXe siècle, en fait, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la seule vision, c'est qu'il y a une autre façon de voir l'avenir qui n'est pas forcément sombre, qui n'est pas forcément dystopique, noire et faite de Mad Max ou de monde qui survivent. Et elle est particulièrement incarnée par un technologiste, un américain qui s'appelle Kevin Kelly et qui lui propose la protopie. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est OK, quand on va créer une nouvelle technologie, on va créer des problèmes et on va créer des avantages. Et si on crée 51% d'avantages pour 49% de problèmes, et bien on aura gagné 1%. Et si 1% et 1% et 1% et 1%, et bien ça va aller vers un monde extraordinairement meilleur. Et donc en fait, c'est vraiment une réaction à cette vision française qui est sombre de l'avenir. Alors, et qu'on retrouve dans la science-fiction.
Alors, française, je sais pas, peut-être que c'est un peu plus universel que ça, mais ce que j'entends, Ariel Kirou, dans ce que nous dit Rich, c'est un peu ce sont les rassuristes aussi en termes de technologie chez nous, en fait.
Le périmètre et l'écosystème de tout ça est évidemment beaucoup plus complexe. La protopie de Kevin Kelly est quelque chose qui reste très technophilique, très, de l'ordre de la technophilie, hein. Et il y a aujourd'hui des penseurs, il y a aussi des gens, quelqu'un comme Yannick Rumpala parle de prototopie, hein, c'est-à-dire de la création de prototypes de futurs qui ne sont ni utopiques ni dystopiques, qui jouent un peu des deux. Et il y a aujourd'hui de vraies tendances qui, contrairement à ce que propose Kevin Kelly, utilisent certes le vecteur technologique, le vecteur scientifique, mais aussi d'autres types de vecteurs, je veux dire le sport, l'humain dans ce qu'il a de plus complexe, par le réchauffement climatique, d'abandon de technologie, avec des éléments de philosophie qui sont parfois assez fous. Et là, on n'est pas simplement dans la protopie d'un Kevin Kelly qui reste très marqué par la Silicon Valley, même si c'est très intéressant, mais dans quelque chose qui est beaucoup plus vaste et qui correspond à ce qu'est aujourd'hui la science-fiction avec ces nouvelles générations, qui correspond un peu aussi à la perception qu'ont les gens de Dune et de pas mal de films d'aujourd'hui. Cette logique aussi où on va critiquer l'intelligence artificielle, on va la critiquer autant qu'on peut potentiellement la considérer comme étant de notre monde.
Alors justement, Lloyd Cherry, je voudrais qu'on parle un tout petit peu d'intelligence artificielle, effectivement, parce que on en est loin dans Dune, mais je voudrais savoir comment elle fait sa place en fait dans le monde de la science-fiction, cette intelligence artificielle. Après tout, on peut la faire remonter loin, on peut la faire
L'Iliade. Héphaïstos, dieu forgeron. Il crée des trépieds quelque part qui sert en quelque sorte les dieux de l'Olympe. Il crée des servantes en or qui parlent et qui pensent. Donc c'est Gilgamesh. Dès l'Antiquité, on a le dieu forgeron, c'est le dieu de la technique et c'est indissociable de cette création. Artificielle.
Et alors dans la littérature SF aujourd'hui, Lloyd Cherry, dans la pop culture aujourd'hui, dans les films, dans les séries, quelle place ça prend l'intelligence artificielle aujourd'hui? Est-ce qu'on a le sentiment que c'est là-dessus qu'il reste des livres qui n'ont pas encore été écrits et des films qui n'ont pas encore été faits?
Alors l'intelligence artificielle, c'est assez large comme sujet. On peut
comme vous dites, on peut commencer à 2001 Odyssée de l'espace, robots. On peut dire qu'on est dedans tout. Hein. On est
d'accord avec vous. C'est ça, Terminator. Enfin, il y a plein d'œuvres très marquantes de la pop culture. Voilà, Minority Report. Où, en tout cas, il y a plein d'œuvres marquantes dans la pop culture qui utilisent le symbole du robot ou de l'intelligence artificielle. On pense aussi à Matrix, bien évidemment, qui a beaucoup marqué, je pense, les esprits. Et pour l'instant, l'IA est plutôt perçue comme étant un adversaire à l'homme, et c'est le cas dans Dune. D'ailleurs, l'IA, il y a eu une guerre et elle a été détruite. Ce qui est intéressant, c'est avec l'arrivée de Midjourney et autres logiciels maintenant avec de l'IA, c'est qu'il y a même des auteurs de science-fiction qui peuvent utiliser ces logiciels pour leurs romans. Donc, on est clairement dans de la SF actuelle. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a une fascination toujours pour le robot. Je pense à récemment The Creator de Gareth Edwards, qui a beaucoup plu aux fans de SF. La figure de l'IA ou du robot reste quand même quelque chose de fascinant. Et si je peux me permettre, juste pour revenir à ce que disait votre auditeur sur l'écologie, c'est assez intéressant parce que dans La Jeunesse de Dune, qui est un texte de Frank Herbert qui racontait comment il avait écrit Dune, et je le cite...
l'écologie servira à des tyrans à venir. C'est ce c'est ça que vous voulez citer ?
C'est ça.
Parce que je l'ai vu aussi et je suis tombée de ma chaise.
Ma conception du super-héros me donnait à craindre que l'écologie devienne le drapeau des démagogues, des héros en puissance, des ambitieux et autres accros à l'adrénaline, soucieux de lancer une nouvelle croisade. Ce qui permet d'être, ce que ça nous encourage à toujours rester vigilants, entre guillemets, à comment on utilise des causes qui sont justes et qui sont nobles et comment elles sont après utilisées pour doper l'ego de nos peut-être dirigeants politiques ou de nos futurs dirigeants politiques.
Les mots, les dictatures vertes, les fascismes verts, etc., c'est des mots qu'on emploie aujourd'hui, des choses qu'on craint aujourd'hui, dont on ne parlait pas avant. Je voudrais revenir un instant, Catherine Dufour, ou plutôt aller d'ailleurs sur les femmes, puisque vous êtes, vous, digne représentante des écrivaines ou des auteureux de science-fiction. Moi, j'aimerais savoir si les femmes en science-fiction ont pris le pouvoir sur les hommes, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que c'est très, très masculin cet univers, toujours aujourd'hui. Est-ce que ça change l'écriture et la vision d'un futur, surtout quand c'est pris en main par une femme ou pas du tout ?
Non, ben heureusement, il y a de plus en plus de femmes. Oui, bien sûr, ça change la façon d'écrire, ça change les sujets. Mais je la citais, Becky Chambers, elle fait une science-fiction très, très humaniste qu'on trouvera pas forcément sous le clavier d'un homme. Et il y a l'émergence, souvent sous le clavier d'autrice de science-fiction, du sujet de la difficulté de la condition féminine. Alors, bon, à 85, Margaret Atwood, la Servante écarlate. Mais actuellement,
elle a pris le match un peu, mais c'est vrai.
Non. Moi, des meilleurs livres que j'ai lus dernièrement, il y a L'école des bonnes mères de Jessamine Chan. C'est à peu près la même chose, sauf que on va venir scruter la façon dont vous êtes mère, et si vous n'êtes pas une bonne mère, ben vous le serez plus. Il y a Méduse de Martine Desjardins. Il y a Les voleurs d'innocence de Sarah Walker. Enfin, il y a une voie de la science-fiction. Est-ce qu'elle est spécifiquement féminine ? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est excellente.
Lloyd Cherry, nous reste une poignée de secondes. Mais je voudrais quand même que vous nous disiez si vous avez adoré Dune 2, si vous êtes encore sous le choc, si vous le mettez dans votre top 3, dans votre top 5, dans votre top 10.
Pour l'instant, c'est le top 1 de l'année. C'est clairement un très grand film de science-fiction.
On est qu'en février.
C'est ça. C'était la petite blague. Non, c'est un grand film c'est un grand film de science-fiction. C'est assez fidèle au roman de Frank Herbert. On ressent l'amour qu'a Denis Villeneuve pour le roman de Herbert. Il y a des séquences incroyables d'action. Pour moi, c'est un peu le nouveau Lawrence d'Arabie, hein, ce classique de David Lean. C'est totalement ça. Et moi, j'ai passé un excellent moment. Peut-être ce qui est bien avec ce film-là, c'est qu'il y a un peu plus de rythme que dans le premier. Ouais. Et je pense que ce film va encourager les gens qui ne connaissent pas Dune à lire le roman. Moi,
c'est mon cas. Donc
voilà, j'espère que ça va vous encourager à lire Dune. Et ce qui est intéressant dans celui-là, c'est que la dimension écologique a été un peu évacuée pour qu'on se concentre sur la dimension du prophète et de la figure messianique et évidemment des tyrans en devenir. Donc ça, c'est assez intéressant pour ce que ça dit aussi sur la figure des héros.
Merci beaucoup, merci à tous et merci pour vos nombreux appels. On écoute Géraldine quand même pour les petits bateaux.
Je voudrais savoir si la femme du pharaon était enterrée avec le pharaon. Merci, au revoir.